Chapitre 121 Le lierre et l'ormeau. Cette permission donnée par M. Jacal, gibassier, commença en effet. « Vous me permettez de donner un titre à cette romanesque aventure, n'est-ce pas, mon bon monsieur Jacal? Les titres ont cela de bon qu'ils résument en quelques mots l'idée prédominante du poème, du roman ou du drame. « Vous parlez de la chose en écrivain consommé, » dit monsieur Jacal. « Monsieur, j'étais né pour être homme de lettres. » « Mais vous n'avez point raté votre vocation, il me semble. N'avez-vous pas été condamné une fois pour fausse lettre de change ?»«
Deux fois, monsieur Jacal. »«
Donnez donc un titre à votre aventure, mais faites vite, le plancher de notre parloir n'étant pas des plus secs. »« Je l'appellerai le lierre et l'ormeau, titre emprunté, si je ne m'abuse, au bon La Fontaine ou à tout autre fabuliste. Il n'importe. » « Je m'ennuyais au bagne. Que voulez-vous? Je n'aime pas le bagne. Je ne puis pas m'y faire, soit que la société qu'on y rencontre ne me convienne en aucune façon, soit que la vue de mes frères souffrants me remplisse l'âme de tristesse et de commisération. Enfin, tant il y a que le séjour au bagne ne me sourit point. Je ne suis plus de la première jeunesse, et les illusions dont je me berçais naguère, en songeant que j'habiterais Toulon, ce Canaan des forçats, ces illusions se sont envolées. Je n'entre plus au bagne qu'avec fatigue, avec ennui, avec dégoût, comme un homme blasé. Le bagne n'a plus rien de séduisant pour mon imagination. La première fois qu'on y va, c'est une maîtresse inconnue. La seconde fois, c'est votre légitime, c'est-à-dire une femme dont les charmes n'ont plus aucun secret pour vous et que la satiété est tout près de vous faire prendre en exécration. J'arrivais donc cette fois à Toulon, plein de mélancolie, morose, presque splinétique. Encore si l'on m'eût envoyé à Brest, je ne connais pas Brest, le séjour de Brest mûr à Genis, réconforté peut-être. Mais point, j'eus beau adresser, sous prétexte d'hygiène, pétition sur pétition, au ministre de la Justice, son Excellence fut inexorable. Je repris donc ma chaîne, et il est probable que je l'eusse apathiquement traîné jusqu'à ma dernière heure, si la société d'un camarade jeune, naïf et bon, comme je l'ai été moi-même autrefois, ne m'eût tout à coup rendu à mes premiers enthousiasmes d'amour de la liberté. » M. Jacal avait légèrement toussé quand gibassier avait rappelé sa naïveté et sa bonté primitive. Il profita de la halte qu'un orateur habile faisait son interlocuteur. « Gibassier, lui dit-il, si l'Amérique perdait son indépendance, je suis sûr que c'est vous qui la lui retrouveriez. » « Je n'en doute pas plus que vous, monsieur Jacal, » répondit gibassier. « Je disais donc que le jeune homme auquel j'étais accouplé, avec lequel j'allais à la fatigue, mon compagnon de chaîne en un mot, était un enfant de 23 à 24 ans. Il était blond, rose et frais comme une paysanne normande. La limpidité de ses yeux, la sérénité de son front, la pureté virginale de son visage, tout, jusqu'à son nom de Gabriel, faisait de lui une sorte de martyr. Il donnait enfin, je ne sais quel air solennel qu'il avait fait à l'unanimité, fait surnommer l'ange du bagne. Ce n'était pas tout, sa voix était en harmonie avec son visage, on eût dit le son d'une flûte. C'est au point que moi, qui adore la musique, ne pouvant pas me donner là-bas le luxe d'un concert, je le faisais parler rien que pour écouter sa voix. En un mot, dit M. Jacal, une attraction invincible vous attirait vers votre compagnon. Attraction, c'est le mot. D'abord, j'étais attiré vers lui par ma chaîne. Mais ce n'est pas la chaîne, il s'en faut, qui fait l'amitié. Il y avait en outre une sympathie mystérieuse qui est restée une énigme pour moi. Il parlait peu, mais bien différent cela des autres, chaque fois qu'il parlait, c'était pour dire quelque chose. Un jour, c'était pour laisser tomber une sentence morale, où il savait son Platon par cœur, et il en tirait des adages qui le consolaient sur la terre d'exil. Un autre jour, il se livrait à des outrages et à des diffamations envers les femmes, outrages et diffamations dont je vous prie de croire que je le reprenais, monsieur Jacal. D'autres fois, au contraire, il s'enthousiasmait hautement pour le sexe tout entier, à l'exception d'une seule créature qui, disait-il, était la cause première de sa fausse position. Aussi la maudissait-il à cœur joie. Quel était son crime à lui ?
Un crime de rien, une bêtise de jeune homme, un mauvais faux. À combien d'années était-il condamné? À 5 ans. Et il songeait à faire son temps? En entrant au bagne, ce fut d'abord son idée. Il appelait cela une expiation. Mais précisément parce qu'on l'appelait l'ange du bagne, un jour il se rappela qu'il avait des ailes et songea à les déployer et à s'envoler. Vous êtes tout à fait poète, gibassier. J'étais président de l'Académie de Toulon, monsieur Jacqual. Continuez. Une fois l'idée de recouvrer sa liberté éclose en lui, il changea tout à coup de visage et d'allure. De tranquille, il devint grave. De mélancolique, il devint sombre. Il ne m'adressait plus la parole qu'une ou deux fois par jour et ne répondait à mes questions qu'avec le laconisme d'un spartiate. Et vous ne deviniez pas la cause de ce changement avec un esprit aussi profond que l'est le vôtre, cher monsieur Gibassier? Oh, que si fait! De sorte qu'un soir, en rentrant de la fatigue, j'ai changé avec lui les paroles suivantes. « Jeune homme, je suis un vieux de la vieille. Je connais les bagnes comme maître Galilée Copernic connaît les principales cours de France. J'ai vécu avec des bandits de toutes les nuances, des forçats de toutes les encolures. J'ai expérimenté la matière et je puis dire à première vue, voici un confrère qui pèse 3, 4, 5, 6, 10, 20 ans de travaux forcés. « Eh bien, me demanda Gabriel de sa voix douce, où voulez-vous en venir, monsieur ?» Il m'appelait monsieur, il ne me tutoyait jamais. « Appelez-moi Milord tout de suite, j'aime mieux cela, lui répondis-je. Eh bien, où j'en veux venir, monsieur, c'est fort simple. Je suis un physionomiste de seconde force. Et en ne m'attribuant que le second rang, je pensais à vous, monsieur Jacqual. Vous êtes bien bon, cher monsieur Gibassier, mais je vous avoue que pour le quart d'heure, j'aimerais mieux une chaufferette que vos compliments. Croyez, monsieur Jacqual, que si je possédais ce meuble, je m'en dessaisirais en votre faveur. Je n'en doute pas, allons toujours. » Et monsieur Jacqual aspira une prise de tabac afin de se réchauffer le nez à défaut des pieds. Gibassier reprit. « Je suis donc un physionomiste de seconde force, dis-je à Gabriel, et je vais vous prouver, mon jeune ami, que je sais quelle pensée vous agite. » Il écouta attentivement. « Quand vous êtes arrivé ici, la nouveauté, le pittoresque, le côté original du bagne vous a séduit comme l'aspect d'un site inconnu, et vous vous êtes dit, « Eh bien, avec un peu de philosophie et mes souvenirs de Platon et de Saint-Augustin, peut-être m'accoutumerai-je peu à peu à cette vie simple, frugale, naïve, à cette existence de pasteur. » Peut-être, en effet, si vous aviez été doué d'un tempérament lymphatique, vous y fussiez-vous habitué comme un autre. Mais, vif, ardent, passionné comme vous êtes, vous avez besoin d'espace, de grand air. Et vous songez que 5 années, dont une bissextile, à passer ici, sont 5 de vos plus belles années perdues sans retour. Or, par une déduction toute logique de cette pensée, vous désirez vous soustraire au plus vite à la destinée à laquelle une justice marâtre vous a condamné. Ou je suis un faux gibassier, ou voilà le sujet de votre méditation. « C'est la vérité, monsieur, répondit franchement Gabriel. Je ne trouve rien de blâmable dans une pareille méditation, mon jeune ami. Seulement, permettez-moi de vous dire qu'elle dure depuis 1 mois, que depuis 1 mois vous êtes fort maussade, que cela m'ennuie d'avoir un disciple de Pythagore à l'autre bout de ma chaîne, et qu'à mon avis, le moment est arrivé de festinare ad eventum, comme dit Horace. Expliquez-moi donc quels sont vos projets et vos moyens d'exécution. » « Mon projet est de recouvrer la liberté, répondit Gabriel. Quant aux moyens d'exécution, je les attends de la Providence. » « Allons, vous êtes encore plus jeune que je ne le pensais, jeune homme. » « Que voulez-vous dire ? » ?»« Je veux dire que la Providence est une vieille usurière qui ne prête qu'aux riches. » « Pardon, monsieur, interrompit Gabriel, ne blasphémez pas. » Dieu m'en garde, si cela me rapportait quelque chose, je ne dis pas, mais où diable avez-vous vu que la Providence s'occupa des malheureux? Le mot de votre destinée est en nous, et il y a un vieux proverbe qui dit « Et de toi, le ciel t'aidera ». Ce vieux proverbe, mon cher monsieur Gabriel, est d'une justesse parfaite. Donc, présentement, la Providence n'a rien à voir ici, et c'est en nous-mêmes qu'il faut chercher les moyens d'évasion. Car il va sans dire, jeune homme, que vous ne vous en allez pas sans moi. Vous m'intéressez à ce point que je ne vous quitte pas d'une semelle, morbleu. ne songez pas à limer un de vos anneaux sans que je m'en aperçoive. Je ne dors jamais que d'un œil. D'ailleurs, vous avez le cœur bien placé, et vous comprenez qu'il serait par trop ingrat d'abandonner un vieux compagnon. Ne tendez donc rien seul, attendu que nous sommes enlacés l'un à l'autre comme le lierre à l'ormeau. Ou, je vous le déclare, mon cher ami, au premier demi-tour à droite ou à gauche que je vous vois faire sans m'en prévenir, je ne suis pas cafard, moi, je vous dénonce. Vous avez tort de me dire cela, monsieur, je comptais vous proposer de fuir ensemble. Eh bien, jeune homme, à ce point arrêté, procédons méthodiquement. En premier lieu, votre franchise me plaît, et je vais vous donner une nouvelle preuve d'affection que je pourrais dire paternelle, en vous confiant mes plans et en vous emmenant avec moi, au lieu d'être emmené par vous. Je ne vous comprends pas, monsieur. Naturellement, jeune homme, car si vous me compreniez, je ne me donnerais pas la peine de m'expliquer. Savez-vous, d'abord, je vais voir tout de suite où vous en êtes, savez-vous quel est le premier élément d'une évasion? Non, monsieur. C'est cependant l'alpha du métier. Faites-moi la grâce de me l'apprendre, alors. Eh bien, c'est une bastringue. Qu'est-ce que c'est que cela, une bastringue? Il ne savait pas ce que c'était qu'une bastringue, monsieur Jacal. J'espère, gibassier, que vous ne l'avez pas laissé dans une pareille ignorance. Une bastringue, jeune homme, lui répondis-je, c'est un étui de fer blanc, de sapin ou d'ivoire, la matière n'y fait rien, de 6 pouces de long et de 10 à 12 lignes d'épaisseur, pouvant contenir à la fois un passeport et une scie faite avec un ressort de montre. Et où cela se trouve-t-il? Demanda Gabriel. Cela se trouve, enfin, n'importe, voici le mien. Et à son grand ébahissement, je lui montrai l'étui en question. En ce cas, nous pouvons fuir, s'écria-t-il naïvement. Nous pouvons fuir, lui dis-je, de même que vous pouvez, de vos pieds légers, aller vous promener jusqu'à l'endroit où la sentinelle fera feu sur vous. Mais alors, demanda Gabriel découragé, à quoi vous sert cet ustensile? Patience, jeune homme, chaque chose viendra à son tour. J'ai l'intention d'aller passer le carnaval à Paris. Ensuite, j'ai reçu une lettre d'intérêt qui me force à aller faire un tour dans la capitale, et cela d'ici à 15 jours. Je vous offre de m'accompagner. Nous allons donc fuir? Sans doute, mais avec les précautions nécessaires. Trop ardent, jeune homme. Vous avez du courage et de la résolution, n'est-ce pas? Oui. Un ou deux hommes à laisser derrière nous, sur notre chemin, ne vous effraieront pas. » L'ange Gabriel le fronça le sourcil. Dame, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs, comme disait la cuisinière de feu Lucullus. C'est à prendre ou à laisser. S'il y a un homme ou deux à renverser en passant, il faut me dire « Monsieur Gibassier » ou « Milord Gibassier » ou « Signor Conte Gibassiero », je les renverserai. » « Eh bien, soit, je les renverserai, » dit résolument mon compagnon. « Ah, bravo, » dis-je, « vous êtes digne de la liberté, et je vous la rendrai. » « Comptez sur ma reconnaissance, monsieur. » « Appelez-moi mon général, et n'en parlons plus. » « Quant à la reconnaissance, nous en reparlerons sur des bords plus fortunés. » « En attendant, voici ce dont il s'agit. Vous voyez bien cette herbe ?»« Oui. » « Je la tiens de la main d'un ami. Je vais la partager avec vous. » Et je lui en offris la moitié en lui disant solennellement « Qu'ainsi mon âme soit séparée de mon corps si je ne vous rends pas à votre liberté native. »« Qu'est-ce que c'est que cette herbe ?» demanda Gabriel. « C'est une herbe merveilleuse avec laquelle vous allez vous frotter le corps. À peine votre chair sentira-t-elle le contact de cette graminée bienfaisante que vous verrez sourdre de toutes parts des centaines de boutons de la nuance des roses du Bengale. Ça vous démangera d'abord un peu, puis beaucoup, puis enfin de façon insupportable, et que cependant il faudra supporter. Mais quel est le but de cette friction ? C'est, mon cher ami, de vous faire croire atteint d'une des maladies dites urticaires, érysipèles ou autres, dont les noms scientifiques ne me reviennent pas, afin d'être envoyé à l'hôpital. Une fois là, vous serez sauvé, mon bonhomme. Sauvé? Oui, je suis étroitement lié avec un des infirmiers de l'hôpital. Rapportez-vous-en à moi et attendez patiemment. « Je sais bien des choses, mon cher gibassier, » interrompit M. Jacal, « mais je ne sais pas encore comment, même avec l'aide d'un infirmier, on s'échappe d'une infirmerie gardée par tout un poste. » « Vous êtes aussi impatient que l'ange Gabriel, monsieur Jacqual, reprit Gibassier. Mettez-y un peu de patience, et dans 5 minutes, vous saurez le dénouement. « Allez, je vous écoute, dit monsieur Jacqual en bourrant son nez de tabac, et vous le voyez, avec cette patience que vous me recommandez, et dont il me semble que je fais preuve, dans la conviction qu'il y a toujours quelque chose à apprendre avec vous, cher monsieur Gibassier. « Vous êtes bien honnête, monsieur Jacqual, dit le narrateur, et il continua. » Gabriel se frictionna, tant et si bien qu'au bout de 2 heures, il était couvert de boutons de la tête aux pieds. On l'envoya à l'hôpital. C'était justement l'heure de la visite. Le médecin le déclara atteint d'un érysipèle de la plus belle venue. Le lendemain du jour où Gabriel avait fait son entrée à l'hôpital, je subis de mon côté une attaque d'épilepsie si effrayante que les carabins me déclarèrent d'abord hydrophobe et m'envoyèrent à mon tour à l'hôpital. En vain je protestais, en vain j'invoquais le témoignage de mes camarades, constatant que je n'avais jamais essayé de les mordre, mais je fus entraîné de force à l'infirmerie et frictionné comme un cataleptique. J'avais l'air furieux, j'étais enchanté. Mon ami l'infirmier était prévenu de longue main. Comme il était déféré, il allait et venait à sa convenance. Cela veut dire qu'il allait de mon lit au lit de Gabriel et venait du lit de Gabriel au mien, le tout pour nous porter des paroles d'encouragement. Un matin, le brave homme vint m'annoncer que tout était prêt et que dès le même soir nous pourrions fuir. La journée se passa à convenir, sans affectation, de nos faits et gestes. Vous connaissez au moins, par oui dire, la distribution des salles de l'hôpital. À l'extrémité de celle où l'on nous avait placés, Gabriel et moi, se trouvait une petite pièce qui servait de salle des morts. Mon infirmier était le dépositaire de la clé de la salle, qui ne s'ouvrait jamais que pour donner entrée au corps des forçats décédés. Nous pouvions donc, l'obscurité venue, nous introduire dans cette salle, les seuls meubles dont elle fut ornée et qui la rendaient semblable à un amphithéâtre de dissection étaient des tables de marbre noir sur lesquelles on couchait les cadavres. Sous une de ces tables, l'infirmier et moi, nous avions creusé un trou par lequel, avec des draps de nos lits, nous pouvions descendre dans des magasins appartenant à la marine. L'heure arrivée, et pendant le sommeil de nos camarades de chambre, Gabriel, qui se trouvait le plus près de la porte, descendit de son lit le premier, et, semblable à une ombre, se dirigea lentement et vaporeusement vers la salle des morts. Je le suivis de près. Par malheur, ce jour-là, on avait déposé sur une des tables le corps d'un des vétérans du bagne. Le pauvre Gabriel, qui prenait encore les morts au sérieux, eut la mauvaise chance de poser en tâtonnant la main sur le cadavre au lieu de la poser sur le marbre. Une venette épouvantable s'empara de lui, de sorte qu'il faillit tout faire découvrir. Heureusement, au cri qu'il poussa, je devinai ce qui se passait, et tâtonnant à mon tour, après l'avoir inutilement appelé, je le découvris, adossé contre la muraille et grelottant de terreur. « En route, mon gentilhomme, lui dis-je, tout est prêt, partons. »« C'est horrible, s'écria-t-il. »« Quoi ? » lui demandai-je. Il me raconta ce qui venait de se passer. « Allons, pas d'attendrissement poétique, lui dis-je. Nous n'avons pas une minute à perdre, filons. »« Impossible, les jambes me manquent. »« Mille tonnerres, c'est fâcheux, car il est assez difficile de vous en passer pour fuir. »« Partez seul, mon cher monsieur Gibassier. » « Jamais, mon cher monsieur Gabriel. » Et allant à lui, je le forçai de s'approcher du trou, de s'accrocher au drap, et je le descendis comme on vous a descendu vous-même ici tout à l'heure. Lui descendu, j'attachai un des coins du drap au pied de fer de la table, et je descendis à mon tour. Nous étions, comme je vous l'ai dit, dans les magasins de la marine situés au rez-de-chaussée du bâtiment dont l'hôpital occupe le premier étage. J'allumai un ras de cave et je me mis à la recherche d'une dalle sur laquelle mon infirmier avait tracé une lettre à la craie et sous laquelle il avait dû cacher 2 déguisements complets. Je trouvai la dalle marquée de la lettre G. Cette délicate attention de mon infirmier me fit verser une larme d'attendrissement qui tomba comme un hommage de reconnaissance sur l'initiale de mon nom. Je soulevai la pierre et j'aperçus un uniforme de gendarme complet, armement, équipement et perruque. « Un seul ? » demanda M. Jacqual. Un seul, c'était là que je me réservais de tâter mon camarade. J'eus l'air désespéré. « Un seul habit, m'écriai-je, un seul ?» Gabriel fut sublime. « Endossez-le, me dit-il, et partez. »« Partir ? Et vous ? Moi, je resterai ici pour expier mon crime. » « Allons, dis-je, vous êtes un brave compagnon. Je n'avais, pour l'accomplissement de mon projet, besoin que d'un seul costume de voyage. Deux m'eussent fort embarrassé. Mais je voulais voir jusqu'à quel point un ami pouvait compter sur vous. Aidez-moi à m'habiller, si cela ne vous humilie pas trop, d'être le valet de chambre d'un gendarme. Et moi, vous, vous restez comme vous êtes. Avec ce costume ? Oui, vous ne comprenez donc pas ? Non. Laissez-moi vous lier les mains, alors. Je comprends de moins en moins. Je suis un gendarme, vous êtes un forçat que l'on transfère des bagnes dans une prison quelconque. Nous trouverons bien le nom d'une prison, que diable, les prisons ne manquent pas en France. Au point du jour, nous sortons, l'un conduisant l'autre. Ah, fit-il, il avait compris. Nous restâmes cachés dans les magasins, et le lendemain, au point du jour, dès que le canon annonça l'ouverture du port, nous nous dirigeâmes, mon prisonnier et moi, vers la grille de l'arsenal. Elle venait d'être ouverte. Les ouvriers de la marine arrivaient en foule. Je me frayais, pour Gabriel et moi, un passage au milieu d'eux, et nous franchîmes la grille sans obstacle. Le pauvre Gabriel tremblait de tous ses membres. En moins de 10 minutes, nous avions traversé la ville et nous prenions la route du Beaucé. À quelques portées de fusil de Toulon, nous entrâmes dans un bois. À peine y avions-nous fait 10 pas que 3 coups de canon, tirés à intervalles égaux, annoncèrent aux habitants de Toulon et des villages voisins qu'une évasion venait d'avoir lieu. Nous nous jetâmes dans le plus épais des fourrés, nous nous couvrîmes de branches et de fougères, et nous demeurâmes immobiles, attendant la nuit pour traverser le bourg du Beaucé. Par bonheur, une pluie torrentielle vint à tomber au moment où les gendarmes commençaient à fouiller le bois. Arrivés à 20 pas de nous, ils se mirent à pester si cruellement contre l'intempérie de l'atmosphère qu'il nous parut à peu près sûr qu'ils allaient abandonner la recherche à laquelle ils se livraient pour se réfugier dans le plus prochain cabaret. En effet, nous n'en entendîmes plus reparler de toute la journée. Vers les 8 heures du soir, nous reprîmes notre route, nous franchîmes le Beaucé, et à 4 heures du matin, nous avions atteint l'inextricable forêt de Cuges. Nous étions sauvés. Je n'ai pas besoin de vous dire, mon bon monsieur Jacal, les divers incidents dont fut émaillée notre route du bois de Cuges jusqu'ici. Vous avez trop d'expérience pour vous figurer que nous cheminions par des sentiers de fleurs. Nous sommes arrivés sains et saufs, ce qui est le principal, et vous voyez qu'à cela près de quelques coups de couteau et d'une chute de 100 pieds dans un puits, je me porte à merveille. C'est prodigieux, cher monsieur Gibassier, n'est-ce pas ? C'est-à-dire que si j'étais préfet de police, je vous donnerais un brevet d'évasion et une récompense honnête. Par malheur, je ne le suis pas, et si mes sympathies d'artiste sont flattées, mon opinion d'inspecteur de la sûreté publique les combat avec tant d'énergie que je vous avoue que je ne sais pas encore à qui demeurera la victoire. Cela tiendra probablement à la sincérité dont vous ferez preuve. Permettez-moi donc de continuer mon interrogatoire, ne fût puisque pour faire l'expérience de ce que disait Carmagnol, et pour voir si, comme le prétend le proverbe, la vérité est au fond du puits. Veuillez m'expliquer d'abord, cher monsieur Gibassier, comment vous vous trouvez ici. Oh, « Je m'y trouve fort mal, monsieur Jacal, » dit Gibassier, se méprenant ou feignant de se méprendre au sens des paroles de l'inspecteur. « Et si ce n'était l'honneur de votre compagnie ?»« Ah, ce n'est pas cela, je vous demande pour quelle cause vous êtes ici. »« Ah oui, je comprends. Eh bien, mon bon monsieur Jacal, je venais d'hériter d'une somme de 5 000 francs. »« C'est-à-dire que vous veniez de voler 5 000 francs. » Aussi vrai que vous êtes mon sauveur, monsieur Jacal, je ne les avais pas volés, je les avais au contraire gagnés loyalement, laborieusement, à la sueur de mon front. Alors c'est vous qui avez travaillé dans l'affaire de Versailles. Je vous avais reconnu à la façon habile dont la porte avait été refermée. Qu'appelez-vous l'affaire de Versailles ? Demanda Gibassier, appelant à son secours l'air le plus innocent qu'il put prendre. Quel jour êtes-vous arrivé à Paris ? Le dimanche gras, monsieur Jacqual, juste pour voir passer le bœuf, qui était magnifique cette année. On dit qu'il avait été nourri dans les gras pâturages de la vallée d'Auge, ce qui ne m'étonne point. La vallée d'Auge est dans une admirable situation, abritée d'un côté par... Laissons la vallée d'Auge si cela vous est égal. Volontiers. Voyons maintenant comment avez-vous passé le dimanche gras. Assez gaiement, monsieur Jacqual, nous avons fait, avec 5 ou 6 camarades que nous avions retrouvés à Paris, quelques bonnes folies. Et le lundi? Le lundi, je l'ai passé en visite.
En visite?
Oui, monsieur Jacqual, quelques visites officielles et une visite de digestion. Vous parlez de la journée?
Oui, monsieur Jacqual, je parle de la journée.
Mais le soir?
Le soir?
Oui.
Diable,
qu'y a-t-il?
Il est vrai, dit Gibassier, comme s'il se parlait à lui-même, que je ne puis rien refuser à mon sauveur.
Que voulez-vous dire?
Vous me demandez de lever pour vous le voile épais de ma vie privée. Je vais le lever. Le lundi à 11 heures.
Inutile, passons sur les mystères de votre vie privée et continuons.
Je ne demande pas mieux.
Qu'avez-vous fait le lendemain, jour du mardi gras?
Oh, je me suis livré à un plaisir bien innocent. Je me suis promené sur l'esplanade de l'observatoire avec un faux nez.
Mais vous aviez une raison pour vous promener sur l'esplanade de l'observatoire avec un faux nez?
Dedans, mépris, misanthropie, pas autre chose. J'avais été le matin regarder passer les masques sur les boulevards et je les avais trouvés pitoyables.
Hélas, encore un de nos vieux us qui va disparaître, monsieur Jacqual. Je ne suis pas ambitieux, mais si j'étais seulement préfet de police...
Passons là-dessus et venons vite au soir du mardi gras.
Au soir du mardi gras, hein, monsieur Jacqual, vous voulez que de nouveau je lève le voile épais de ma vie privée?
Vous avez été à Versailles, Gibassier.
Je ne m'en cache pas.
Monsieur Jacqual laissa errer sur ses lèvres un indéfinissable sourire.
Qu'alliez-vous faire à Versailles?
Me promener.
Et vous promenez à Versailles, vous?
Que voulez-vous, monsieur Jacqual? J'aime cette ville, toute pleine des souvenirs du grand roi. Ici, c'est une fontaine, là, un groupe.
Vous n'étiez pas seul à Versailles.
Et qui donc est absolument seul sur la terre, mon bon monsieur Jacqual?
Je n'ai pas de temps à perdre à écouter vos sottises, Gibassier. C'est vous qui avez dirigé l'enlèvement de la jeune fille du pensionnat de Madame Desmarets?
C'est la vérité, monsieur Jacqual.
Et en récompense, vous avez reçu les 5 000 francs en question.
Ah, vous voyez bien que je ne les ai pas volés, car enfin, si je n'étais pas condamné aux galères à perpétuité, j'en aurais au moins pour 20 ans de plus.
Qu'est devenue cette jeune fille une fois aux mains de monsieur Laurédan de Valgeneuse?
Comment, vous savez donc?
Je vous demande ce qu'est devenue cette jeune fille après que mademoiselle Suzanne vous l'a eu livrée.
Ah, monsieur Jacqual, si monsieur Delavaux vous perdait, quelle perte pour lui et pour la France!
Encore une fois, Gibassier, qu'est devenue cette jeune fille?
Ah, quant à cela, je l'ignore entièrement.
Faites attention à ce que vous dites.
Monsieur Jacqual, le foie de Gibassier, nous l'avons mise en voiture, la voiture est partie, et nous n'en avons plus entendu parler. J'espère que ces jeunes gens sont heureux et que par conséquent j'aurai, pour ma part, contribué au bonheur de 2 de mes semblables.
Et vous, qu'êtes-vous devenu depuis ce jour? L'ignorez-vous aussi?
Je suis devenu économe, mon bon monsieur Jacqual, et j'ai cherché, sachant que la clé d'or ouvre toutes les portes, à me créer un état honorable au milieu de cette intelligente et laborieuse cité de Paris. Or, j'ai passé en revue toutes les professions et n'en ai trouvé qu'une à mon goût.
Peut-on savoir laquelle?
Celle d'agent de change. Malheureusement, je n'avais pas les capitaux nécessaires pour acheter soit un quart, soit un demi. Mais pour être prêt à tout événement, dans le cas où la Providence, comme dit le pauvre Gabriel, jetterait les yeux sur moi, j'allais chaque jour à la bourse m'initier au mystère du grand œuvre. Je compris l'agiotage et je rougis honteusement d'avoir si mal volé toute ma vie en voyant combien il était plus facile de gagner son existence de cette façon.
Je fis donc la connaissance de plusieurs agioteurs distingués qui, reconnaissant en moi une perspicacité peu commune, me firent bientôt l'honneur de me consulter sur la hausse et la baisse en me donnant une petite part dans les bénéfices. Et ces consultations vous réussirent. C'est-à-dire, mon bon monsieur Jacal, qu'en un mois, je réalisais 30 000 francs, le double, le triple, le quadruple de tout ce que j'avais gagné dans ma laborieuse vie, et une fois à la tête de cette petite fortune, je devins honnête homme. Alors vous devez être méconnaissable, dit monsieur Jacal, en tirant de sa poche un briquet phosphorique et en allumant un petit rat de cave qu'il avait toujours sur lui, et qui éclaira le fond du puits de manière à ce qu'il pût en effet reconnaître le pénitent gibassier, tout souillé de fange, tout couvert de sang.